On va faire comme si c'était un apéro. En général, quand on commence, celui qui manque arrive. Donc, voilà. Bonjour à tous, je suis Valérie Lawson et je vais modérer ce café littéraire avec vous. Nos invités pour parler de Merlin et de la légende des légendes celtiques sont Crystal Camprubi, illustratrice, Fabien Clavel, auteur, et Édouard Brazet, auteur. Donc, je ne sais pas, on va faire une petite présentation éventuellement de vos travaux sur Merlin. Et puis après, je vous poserai quelques questions si vous voulez bien y répondre, ce qui m'arrangerait. Voilà. Édouard Brazet, quel est votre travail, vous, sur Merlin?
Alors, sur Merlin, en fait, moi, je m'intéresse au merveilleux au sens large. Donc, Merlin fait bien sûr partie du merveilleux, ainsi que le monde des fées, le monde, ce qu'on appelle le petit monde de féerie, qui, en fait, est très présent dans les légendes celtiques, notamment. C'est vrai que, bien que les fées existent, ou que le monde merveilleux existe de façon générale, c'est vrai que les anglo-saxons et les celtes, les irlandais, les écossais, les bretons chez nous, ont conservé cette relation très privilégiée avec cet autre monde qui est parallèle au nôtre, qui est là sans être là, c'est-à-dire qu'il y a des frontières, il y a des passages pour rejoindre cet au-delà, qui n'est pas un au-delà céleste lointain, mais un au-delà qui est proche et qu'on peut franchir dans les forêts. Alors Merlin, justement, c'est celui qui... C'est l'homme sauvage de la forêt. En fait, il y a plusieurs visages de Merlin, on connaît surtout celui de l'enchanteur. Alors je passerai sur... Walt Disney, hein, si vous me le permettez, parce qu'on fait un bon... qui a eu le mérite quand même de faire connaître Merlin à des générations de gamins, dont moi. Mais ce qui est intéressant dans Merlin, au-delà du personnage du conseiller du roi Arthur, de celui qui est un peu dans le... À la limite, même dans la cour du roi Arthur, comme ça se passe dans les pays celtes, le druide, parce que Merlin, c'est un peu le druide, est plus important que le roi. C'est-à-dire que c'est lui qui a le pouvoir sacerdotal, le pouvoir magique, et le roi n'a que le pouvoir temporel, en quelque sorte.
D'accord. Alors voilà une première vision. Fabien,
oui.
Ta vision de Merlin?
Oui, pareil, un magicien, effectivement, qui passe d'un monde à l'autre, qui est effectivement aussi un conseiller important. Moi, la manière dont je l'ai abordé, c'est parce que je me suis référé, évidemment, aux textes médiévaux. C'est plutôt de l'imaginer comme quelqu'un qui, au-delà des rois, effectivement essaye de tout manipuler pour créer une société parfaite. Et moi j'ai vu un peu la société de la table ronde comme une société utopique qui est vraiment une parenthèse entre le monde antique et le monde médiéval. C'est-à-dire un moment de transition qui n'existe pas vraiment.
Crystal, en vous appuyant sur un auteur, quelle est votre vision de Merlin?
Je ne vais pas seulement dire en appuyant sur un auteur. Mon premier contact en fait, avec la table ronde, c'est chez moi, ça s'est toujours tissé entre littérature et bien sûr image. Au départ, c'était ma passion des pré-raphaélites, donc avec toute leur vision du médiéval. Et ça m'a amené, parce que je faisais des études littéraires, en fait, à choisir une branche en médiévisme et à travailler en fait un mémoire et plus tard un début de troisième cycle sur les chevaliers de la table ronde. Donc à l'époque, c'était Perlesvaus, essentiellement la quête del Saint Graal. Et puis après, j'ai travaillé un peu sur Tristan en prose. Donc là, c'était ma première approche qui finalement était une approche littéraire, mais un peu avec les pierres fondamentales, bien que je m'étais entre guillemets spécialisée dans la littérature courtoise. Mais ça m'a donné l'occasion effectivement de me pencher sur Robert de Boron et donc de voir un petit peu les mythes fondateurs de Merlin. Par la suite, je me suis intéressée évidemment à tout le versant pictural. Et là, il est vrai que je rejoins un petit peu la vision d'Edouard, et peut-être à cause de mon goût des forêts, pour moi, c'est effectivement cette vision de l'homme sauvage. Je fais inconsciemment un parallèle entre Kernunos et lui, même si c'est pas directement lié. Et c'est vrai qu'on retrouve des personnages, en fait, dans mes images, qui sont indirectement des allégories. Et même s'ils ne sont pas Merlin en particulier, ont toujours des facettes similaires.
On va pouvoir accueillir Bruce Hérault. Bonjour. Vous êtes illustrateur.
Oui.
Quelle est votre vision à vous de Merlin, tout simplement? C'est un peu abrupt, je suis désolée.
Je me suis dépêché pour venir. Alors, ma vision... J'ai pas suivi le début de la conférence.
Chacun a présenté sa vision personnelle du personnage.
Ma vision du personnage, elle est globale. Pour moi, c'est un personnage protéiforme, une sorte de tout en un, en fait.
Je peux citer la préface de votre livre, parce que vous êtes illustrateur, voilà. Mais vous avez fait la préface et vous dites « Il est à la croisée des mondes et des âges, des hommes et de la nature ». C'est votre vision ?
Voilà, c'est un carrefour, Merlin, en fait. C'est un axe autour duquel tout tourne. Dans le roman arthurien, tout tourne autour de Merlin. Pour moi, c'est le personnage principal, le personnage essentiel de la table ronde. Entre le monde ancien et le monde nouveau qui va arriver après lui. Il est entre l'imaginaire et puis l'histoire quand même, parce qu'on après on peut s'accorder sur à peu près 3 Merlin véritablement existants, donc dont la littérature et l'imaginaire on n'en fait qu'un seul. C'est le personnage tout puissant et en même temps avec ses fragilités qui fait que l'imaginaire et la littérature est possible. C'est pas un dieu du tout, c'est quand même quelque part un surhomme, en fait. Voilà.
Alors, du coup, pourquoi revisiter chacun de vous la matière de Bretagne à travers ce personnage plutôt qu'à travers Arthur, ou alors à travers un personnage un peu moins connu que vous pourriez complètement réinventer ? Parce que Merlin, tout le monde a à peu près son idée sur qui il est. Donc, qu'est-ce qui fait que vous vous intéressez à ce personnage en particulier ?
Je suis pas sûr qu'en fait on sache vraiment qui est Merlin. En fait, parce que c'est vrai que chacun peut avoir sa vision, on peut interpréter chacun son Merlin. Mais en réalité, c'est vrai que je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'il est central dans la légende arthurienne, et en même temps, il apparaît très, très peu. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas en action, vraiment. On le voit à travers... par exemple, c'est lui qui initie la table ronde. C'est lui qui est à l'initiative de cette création, donc d'une espèce de confrérie parfaite de chevaliers. C'est lui qui initie Arthur à son métier. Et en même temps, il est insaisissable parce que de par sa naissance, c'est là aussi, c'est pas un dieu, c'est pas un homme, il est rejeté en fait par tous les clans en quelque sorte, parce que son origine, on dit, alors ça c'est une vision sans doute christianisée, on dit qu'il est le fils du diable et d'une jeune moniale. D'autres versions disent qu'il s'agit plutôt d'un elfe, en tout cas d'un être de l'autre monde. Toujours est-il qu'il est entre les mondes de par son origine, de par sa naissance, et même lorsqu'il est à la cour du roi Arthur, il n'est pas non plus chez lui, il n'est pas dans son monde non plus. C'est pour ça qu'il devient l'homme sauvage, lui qui va dans la forêt, et là il devient la forêt elle-même. Il devient les animaux, il devient le vent, il devient les éléments de la nature. Il se confond avec ces éléments de la nature, il les maîtrise, et en même temps il se fond en eux. Et cette folie, on parle, il y a le thème qui est très beau, la folie Merlin. Et la folie Merlin, c'est alors, il y a une explication historique, c'était après la bataille de Camden, je crois.
Ardoride, je crois.
Pardon ?
Ardoride.
Oui, à la suite de cette bataille, il serait devenu fou de douleur et il se serait réfugié dans la forêt. Une autre vision qui dit que, en fait, cette folie, c'est une espèce de folie chamanique, c'est-à-dire qu'il devient habité par les esprits. Il quitte la société des hommes, la société raisonnable, rationnelle, pour entrer dans une autre forme de pensée qui est folle à nos yeux, aux yeux êtres humains, mais qui en fait est inspirée. Donc là, il devient le chaman, il devient effectivement Kernunos, l'homme qui est relié à autre chose. Et c'est là où il devient véritablement magicien. Et, on en parlera peut-être un peu plus tard, ce qui est fondamental, c'est sa rencontre avec Viviane.
Ah oui, ça c'est votre vision. Pour Fabien... dans votre vision à vous de votre Merlin, c'est un Merlin un peu initiateur, puisque dans l'apprenti de Merlin, ce qui compte, c'est ce qu'il transmet peut-être.
Oui, effectivement. C'est-à-dire que moi, j'ai donc, il s'agit d'une série jeunesse autour de l'apprenti de Merlin. Donc, il va être abordé de biais, excusez-moi, par un personnage qui va être l'héroïne, qui va être son apprenti. Et Merlin, effectivement, comme on le disait juste avant, va être relativement un peu présent. Il va se partager entre des moments d'apparition, comme dans les textes, en fait, où effectivement, il est rarement là, et quand il apparaît, souvent il est déguisé, il est transformé, et il vient plus ou moins donner une leçon à Arthur pour lui montrer ce qu'il devrait faire. Donc c'est là-dessus que j'ai continué. Et l'autre aspect, effectivement, de Merlin, dont on a un peu moins parlé ici, c'est que souvent il est considéré comme étant celui qui enseigne comment devenir roi à Arthur. Mais il a eu d'autres élèves, en fait, et effectivement, Viviane en fait partie. Et donc c'est cet aspect-là aussi que moi j'avais envie de développer, Merlin en tant que passeur, toujours dans l'idée qu'il est à cheval entre deux mondes. Et sachant que moi, je ne suis pas spécialiste de l'époque médiévale et de la matière de Bretagne, moi je pars plutôt de l'Antiquité, je suis professeur de lettres classiques, donc je suis vraiment parti de là, et ce qui m'intéressait, c'était vraiment de montrer de Merlin qui met fin à l'Antiquité pour rentrer dans le Moyen-Âge. Et donc le fait qu'il soit enseignant, évidemment, participe à cette idée.
Avant de parler de ces liens avec les femmes et peut-être avec Viviane, Christal, est-ce que vous pourriez nous parler du travail que vous faites sur justement une vision très différente de Merlin, qui est celle de Marion Zimmer Bradley?
Oui, bon là j'en toucherai en deux mots parce que j'ai eu l'occasion en fait en ce moment de refaire les couvertures de Marion Zimmer Bradley, donc qui a quand même un petit peu révolutionné aussi la vision qu'on a de la création d'Avalon, etc. Et en fait, c'était simplement pour évoquer le fait qu'elle ne parle pas de Merlin, mais des Merlins de Bretagne. Et c'est vrai que on a tendance aussi à justement à transformer en allégorie un personnage qui, au départ, prend sur lui beaucoup de choses de la société de l'époque. Et beaucoup de facettes, et notamment tout à l'heure ce qu'avait évoqué en fait Edouard, c'est-à-dire la fonction du druide, la fonction qui est en fait le médiateur entre le roi et Dieu, et qui avait en fait à la fois un rôle de politique, mais aussi un rôle guerrier. Et c'est vrai qu'on a tendance, je pense, dans Merlin, à voir l'une et l'autre facette aussi à cause de l'image que les druides ont transmise dans notre société, oralement, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont perdues, mais enfin, voilà.
En dehors de cette vision un peu druidique, j'ai vu, Bruce Hérault, que vous en parliez sur la fin de votre livre. Alors déjà, vous le traitez sur sa vie complète, c'est assez oui, voilà. Original.
Alors, en fait, à l'époque où on a décidé de faire le livre, il n'y avait pas grand-chose en fait en illustration sur Merlin, on va dire, de façon contemporaine. On était resté sur les images de Doré,
du vieux mage à la barbe blanche.
Voilà, des images du 19e qui sont magnifiques, hein, qui sont superbes. Mais il n'y avait pas de livre, on va dire, grand public, et en même temps qui traitait au cœur du personnage. Moi, j'ai choisi ce personnage-là pour des raisons que j'ai déjà exposées tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est un axe, pour un illustrateur, c'est extrêmement pratique, parce qu'en fait, on peut parler de chevaliers, de belles dames avec de jolies robes, mais aussi, comme il a le lien avec tous les mondes, il a le lien avec le monde d'en bas. Comme j'étais intéressé par les lutins, voilà.
Vous l'appelez, ça m'a un peu touché, vous l'appelez le trickster, ça m'a fait beaucoup penser à Loki, le tricheur, celui qui trompe.
Oui, alors ça, j'ai pas révisé avant de venir, hein, parce que j'étais prévenu il y a une demi-heure en fait que je venais, donc le livre, j'avais 5 ans que je l'ai fait, donc faut que je révise un petit peu. Mais ça, c'est une notion particulière, le trickster. Moi-même, je suis pas très à l'aise avec ça, mais bon.
D'accord.
Voilà. Mais en fait, cet axe de personnages entre différents mondes, entre les puissants, mais aussi les faibles, entre le pouvoir de guérir, mais le pouvoir d'éventuellement ôter la vie. Donc ça, pour un illustrateur, c'est parfait, parce qu'on peut... On est libre, en fait. On est libre de traiter ce qu'on veut, de paysage, de pouvoir, de non-pouvoir, de séduction, de... Voilà. Et en même temps, de par mes origines, mes racines bretonnes, c'est un personnage qui essentiellement prend place, en fait... dans l'actuelle Angleterre, mais qui a fait l'aller-retour très souvent entre l'Armorique et la Bretagne ancienne. Or, pour nous, pour les Bretons, c'est un archétype important, Merlin. Ça fait partie des figures, en fait, auxquelles on fait référence, notamment beaucoup dans la forêt de Brocéliande, où Merlin est situé, est cité tous les coins de rue. Quoi.
Alors justement, pour en revenir à la forêt et à ce côté archétypal, pour vous, Édouard Brasset, c'est peut-être aussi un peu un conteur, un charmeur, Merlin. Vous avez fait un spectacle conte qui s'appelle La mémoire de Merlin, dans lequel Viviane l'emprisonne. Et en fait, le garde, il faut qu'il lui raconte des histoires, un peu comme Scheherazade.
Alors, en fait, c'est vrai qu'il y a plusieurs versions de cette rencontre entre Merlin et Viviane, et surtout l'issue de leurs amours. Il y a une version, là aussi, qui est sans doute christianisée, qui diabolise Viviane, dans le sens où on dit, en fait, voilà, il lui a appris en fait toutes ses magies, puis finalement, elle a pu obtenir de lui l'ultime secret, qui consiste à enfermer un homme dans une prison d'air et le tenir ainsi à sa disposition. Et après, voilà, Merlin était le prisonnier de Viviane. En réalité, on peut dire que Viviane, en fait, au départ, ce n'est pas une fée. C'est même pas une magicienne, c'est simplement une sorte de... C'est la fille d'un vavasseur, un seigneur local, qui est vouée au culte de Diane. Et Diane, à l'époque, était encore vénérée comme divinité païenne. Et en fait, étant en quelque sorte une prêtresse de Diane, elle ne pouvait franchir les limites de la forêt de Brocéliande. Et lorsqu'elle rencontre Merlin devant la fontaine de Barenton, cette fontaine qui rit parce qu'il y a des petites bulles qui apparaissent à sa surface, aujourd'hui encore elle rit parce que c'est le rire de la fée. Et donc là, ils se rencontrent, Merlin tombe amoureux d'elle, elle de lui. Mais c'est un amour qui reste chaste. Pour une raison, alors là aussi, il y a plusieurs raisons qui sont invoquées, mais il y a celle que, en fait, Merlin lui-même, pour ne pas sombrer, ça c'est la version dans laquelle il est le fils du diable, pour ne pas sombrer sous le joug, en quelque sorte, de son père, il doit s'abstenir de tout rapport charnel. Donc leur amour reste l'amour courtois, l'amour chaste, et elle devient, en quelque sorte, sa disciple. Et il l'initie effectivement à toutes ces magies. Et en fait, l'ultime secret, celui qui lui permet d'abandonner sa propre liberté, c'est en fait un acte d'amour de sa part. C'est-à-dire qu'il sait très bien qu'elle va s'en servir pour l'enfermer, mais il fait en fait le sacrifice de sa propre liberté par amour pour Viviane. Et dans le spectacle que vous avez cité et que je donne avec mon épouse Stéphanie, qui m'a Viviane à moi, qui est au fond, elle reste avec lui, c'est-à-dire qu'elle est libre de le quitter puisqu'elle n'est pas assujettie à ce sortilège, mais elle fait le choix, aussi bien lui a fait le choix de rester son prisonnier, elle fait le choix de rester près de son prisonnier. Et bon, dans l'histoire, dans le spectacle conté en question, eh bien, pour la retenir près de lui, il lui raconte des histoires. Et pourquoi lui raconte-t-il des histoires? Parce que Merlin, c'est aussi toute la mémoire de toutes les histoires passé, présent et avenir. C'est une sorte d'akasha, c'est-à-dire qu'il sait tout. Il sait tout ce qui s'est passé, il sait tout ce qui se passe et tout ce qui se passera. Et en fait, enfermé encore aujourd'hui dans cette prison d'air, quelque part en forêt de Brocéliande, il y a Viviane Merlin, qu'on peut entendre parfois, et effectivement, c'est là, il n'a plus besoin en fait. C'est-à-dire que c'est un faux prisonnier, puisqu'il est au cœur des choses. Il est au cœur de la forêt, en quelque sorte, au cœur du monde, et c'est lui qui en fait devient en quelque sorte le cœur sacré du monde, en quelque sorte. Donc, voilà, non seulement il n'est pas prisonnier, mais en fait, il s'est libéré de son corps mortel, en quelque sorte. Il devient une sorte d'esprit de la forêt.
Oui, bon, c'est vrai. Puis il faut pas oublier que pour la séduire, en fait, il s'est donné l'apparence de jeune homme, mais c'est quand même un vieillard qui séduit une magnifique jeune fille. Et s'il est prisonnier, c'est aussi du charme de Viviane aussi, hein. Elle est extrêmement belle, donc c'est une forme de... Enfin, on peut remettre ça dans un contexte, on va dire, contemporain. On peut être parfois prisonnier, en fait, du charme de quelqu'un et ne plus avoir de son propre jugement, en fait.
Alors, Christelle, comment vous la voyez, vous, cette Viviane qui réussit à charmer le plus puissant des sorciers.
Moi, j'ai toujours essayé de prendre la version païenne d'une certaine manière. C'est-à-dire que il y a eu cette époque merveilleuse où la femme était adulée. Et ensuite, c'est vrai qu'on voit dans la littérature, quand la littérature s'est christianisée, finalement, elles ont été montrées du doigt. On voit la même chose dans le mythe de Tristan et Iseut. D'ailleurs, ça mène à des tas de paradoxes. Voilà, je fais une digression, mais on arrive par exemple avec Tristan qui fait un duel judiciaire à un moment pour prouver son innocence, alors qu'on sait très bien qu'il est coupable. Mais ceci dit, un duel judiciaire, Dieu est censé donner raison à une parole juste. Or, il donne raison à Tristan, puisque c'est Tristan qui gagne, et on sait qu'il a menti. Donc on arrive à des paradoxes du fait qu'il y a eu un petit peu ce clash entre la littérature païenne et les pères de l'Église qui ont un petit peu essayé de faire que les choses soient politiquement correctes, on va dire. Et c'est vrai que, bon, là, c'est un goût personnel, mais quand je me penche sur ces mythes-là, j'ai toujours tendance à regarder avec un œil plutôt, justement, pro-païen. D'accord. Donc, Viviane, moi, je la vois pas du tout comme... personnellement, j'ai envie d'y voir la femme libre, la femme qui a partagé avec Merlin, la femme qui a une grande histoire, quelque part, qui nous dépasse et que nous, on essaie d'analyser, parfois à tort. Voilà.
Donc, pour certains d'entre vous, est-ce que Merlin est cette espèce de personnage schizophrène qui, en même temps, est le représentant du passé, mais qui aide Arthur, qui, lui, de façon christianisée, amène le futur? Est-ce que Merlin, c'est la schizophrénie, d'une certaine façon?
Non, je dirais pas ça, parce que... il est multiple, c'est vrai qu'il a plusieurs visages, parce qu'il a tous les visages en quelque sorte, mais même sa folie, il la maîtrise d'une certaine façon. Donc en fait, Merlin, c'est aussi un miroir. C'est un peu comme ici, vous voyez, dans le Magic Mirror, on a des miroirs partout, biseautés, et en fait, ça nous réfléchit différents des milliards de réalités, alors qu'en fait, il n'y en a qu'une, c'est nous qui sommes ici, quoi. Donc en fait, c'est un peu comme la caverne de Platon. Donc Merlin, c'est ça, il nous renvoie, je dirais, c'est plus... notre difficulté à comprendre ce que peut être un personnage comme Merlin, c'est quelqu'un qui est vraiment entre les mondes, qui est un passeur de mondes, qui nous donne cette difficulté à savoir vraiment qui il est. Donc il peut nous paraître parfois fou, parfois contradictoire, parfois jeune, parfois vieux, parfois menteur, etc. Mais en fait, c'est lui qui détient réellement la réalité et la vérité. Nous, on ne sait pas. Nous, on est dans un monde qui est séparé en deux. Il y a le noir, le blanc, l'ombre, la lumière, le bien, le mal. Lui, il est ailleurs.
D'accord. Alors,
je répondis dessus parce que c'est probablement aussi dû au clash culturel, mais également de sa naissance, etc. C'est-à-dire que là aussi, on a le côté païen et le côté chrétien et le fait que ce soit que l'un se soit opposé à l'autre. Et je pense que c'est ça qui fait aussi que ça apporte différentes facettes en fait à ce mythe-là et qu'il est difficile d'avoir une allégorie simple parce que en fait tout est subdivisé. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair.
Fabien, si ce Merlin est quelque chose que nous on n'arrive pas à définir, qu'est-ce que lui il réussit à transmettre à son apprenti? Qu'est-ce qu'il a à transmettre?
Alors juste avant de répondre à votre question, je voulais juste rajouter que la vision du Merlin qui est perdue dans le temps aussi bien que dans l'espace, c'est la vision qui est développée notamment par T.H. White, qui est à l'origine en fait du Disney. Où on a le Merlin effectivement enseignant avec toutes les métamorphoses qui vont être des métamorphoses éducatives auprès du jeune Arthur. Et par contre, évidemment, dans le Disney, ils ont complètement évacué, enfin en partie, je crois. Ça fait longtemps que je l'ai pas revu, mais le côté anachronique, c'est-à-dire que quand on rencontre Merlin,
non, c'est pas évacué, il va à Saint-Tropez dans la version française, mais au Bahamas.
Oui, il va à Saint-Tropez, effectivement. Mais c'est vrai que quand on le rencontre la première fois dans sa chaumière, il y a des tas d'éléments complètement anachroniques et des réflexions de Merlin qui se demandent est-ce que je t'ai déjà dit ça ou ah non, je te le dirai tout à l'heure ou et qui confond toujours le passé et l'avenir. Alors, quelle était la question, pardon?
En tant qu'initiateur et en tant que maître d'une apprentie, qu'est-ce qu'il a à transmettre?
Alors, qu'est-ce qu'il a à transmettre? Justement, c'est un peu le problème. Moi, mon cycle n'est pas fini, donc je n'ai pas envie de trop révéler ce qui va se passer après. Mais justement, c'est le problème que se pose l'héroïne. C'est qu'est-ce qu'il veut m'apprendre, en fait? Parce que dans la première partie, justement... Alors juste, je vais faire une petite digression aussi. Ce qui est intéressant dans ce mythe, c'est que justement c'est un mythe. Et donc on a des tas d'incohérences, comme dans les mythes antiques. On retrouve différentes versions qu'elle soit christianisée, païenne, etc. Je dois avouer que moi aussi, je penche plutôt du côté païen, parce que c'est quand même nettement plus rigolo, enfin je trouve personnellement. Ça permet un petit peu plus de choses. Et donc ça permet vraiment de choisir, de manipuler le mythe, de le tirer un peu dans tous les sens pour réarranger les choses. Et en l'occurrence, moi par exemple, dans ce qui est dans le début du cycle, la fée, j'ai transformé donc Morgane en fée Morgue, qui appartient aussi à la tradition française. Et c'est elle qui est la Dame du Lac et non pas Viviane. Évidemment, il y a des raisons, bien sûr. Et justement, quand Merlin se retrouve à devoir enseigner des choses à la petite paysanne qu'il a récupérée, enfin qui est une voleuse surtout, en fait, il la confie très rapidement à la fée Morgue. Parce que lui, il ne veut pas s'en occuper. Il lui montrera après, etc. Enfin, c'est toujours l'idée de la présence-absence de Merlin. Il est là, il est présent, il s'occupe d'elle, mais on ne comprend pas pourquoi. Et on ne voit pas tellement ce qu'il a eu transmettre, à part des connaissances magiques, mais on peut espérer qu'il y a d'autres choses derrière.
Donc c'est un personnage de l'équilibre, Merlin. C'est quelqu'un qui réussit à équilibrer les mondes.
Ouais, c'est difficile à dire. En fait, je voulais revenir un petit peu, donner ma version. La question était déjà...
Est-ce que c'est un initiateur? Qu'est-ce qu'il a à transmettre? J'aurais dû répéter cette question plein de fois. Est-ce qu'il a des choses à transmettre?
Non, la question, c'était sur le j'ai oublié, en fait.
Bon, alors, c'est pas grave, repartons sur autre chose. Est-ce que pour vous, c'est pas l'équilibre, donc? C'est difficile à dire.
C'est difficile à dire. Qu'est-ce que c'est que l'équilibre?
Votre vision?
Ben, je pense oui, mais en fait, voilà, c'est... Je peux dire oui, et puis en même temps, on peut. C'est aussi un personnage qui a échoué sur beaucoup de choses, quoi. Donc, est-ce que l'échec, c'est l'équilibre? Je ne sais pas.
Alors, du coup, si c'est un personnage en échec, qu'est-ce que vous y apportez moderne qui soit intéressant d'un point de vue contemporain? En quoi ça devient un personnage, un héros intéressant à suivre si c'est aussi un symbole d'échec? Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois très souvent. Hein. C'est comme ça qu'il est traité chez Zimmer Bradley, comme quelqu'un qui accepte dès le départ, Morgan aussi d'ailleurs, qui accepte dès le départ l'idée que ça va rater.
Le personnage, comme archétype, on a énormément de choses à apprendre de lui et de sa vision des choses et de la manière dont il aborde le vivant, la nature, les dieux, le pouvoir. Il n'est pas là où on l'attend, il est juste à côté derrière, pas très loin, pas pour, mais pas contre non plus. Il est... On dit que le druide parle avant le roi. Or, il n'a pas autant de pouvoir que le roi. Le roi, c'est le pouvoir tout-puissant. Lui, il a la faculté de parler avant le roi. Mais il ne peut pas empêcher, en fait, des batailles. Il ne peut pas empêcher les choses d'arriver. Il peut orienter un petit peu à sa manière les choses. Mais dans sa vie, enfin, dans ce qu'on peut connaître du mythe, il lui est arrivé plein de choses... assez funeste aussi. Et pour moi, c'est une parabole en fait de l'humanité en fait. On peut être un jour ou l'autre extrêmement puissant et puis se retrouver tout nu du jour au lendemain à chercher un appartement. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, en fait, Merlin, ça nous donne en fait l'idée qu'en fait voilà, on est que de passage. On a tous en nous énormément de pouvoir. Donc c'est ça que je me suis fondu en lui à travers lui, mais à travers aussi des gens qui m'ont servi à ciseler le personnage. Des gens qui ont de vie extrêmement bien remplie avec du courage et tout ça, et qui ont aussi des faiblesses en fait. Ouais, pour moi, c'est l'image même de l'humanité, c'est-à-dire que l'homme est faillible, en fait, voilà. Puissant et faillible.
Ah, Donc c'est de grands pouvoirs, de grandes responsabilités et une capacité à l'humilité, peut-être, Edouard ?
Deux, pardon ?
Une capacité à l'humilité pour Merlin, une capacité à se mettre en retrait.
Je ne pense pas que ça soit l'humilité, justement. C'est pas l'orgueil non plus. C'est qu'il est à la fois il est au centre, comme on l'a dit, au centre du monde, au centre des choses. En même temps, il est ailleurs, il est toujours ailleurs. C'est-à-dire que il n'est pas concerné, il n'est pas intéressé, me semble-t-il, hein, par ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il sait que tout passera, en fait. Il est déjà dans l'au-delà des choses. C'est-à-dire qu'il sait très bien que ce monde passera, il sait très bien que la cour du roi Arthur passera, il sait très bien que le roi Arthur sera en dormition quelque part et qu'un nouveau cycle va se générer. Donc, à la limite, il est au-delà, il est à la fois, c'est vrai, peut-être un archétype de l'humanité entière, mais en même temps, il est déjà dans ce qui va peut-être apparaître après que l'humanité aura disparu très bientôt. Donc,
décembre 2012, si
donc,
c'est
tout bien. Non, mais je veux dire par là que l'humanité, comme toute espèce, est en mutation, et ces mutations, elles se font parfois brutalement, parfois brusquement, et elles se font parfois par la ruine totale d'une civilisation. En fait, cette civilisation arthurienne qu'on idéalise aujourd'hui, hein, à travers les fictions notamment, c'est vrai qu'elle a totalement disparu, pour autant qu'elle n'ait jamais existé. D'ailleurs, historiquement, on n'en est pas sûr. Ou en tout cas, si elle a pu exister historiquement, elle ne correspondait sans doute pas à cette cour idéalisée qu'on présente. Mais en tout cas, toutes les valeurs qui existaient du temps du roi Arthur et qui ont été pour grande partie initiées par Merlin ont disparu. La chevalerie, à ma connaissance, a disparu. L'esprit même chevaleresque s'est perdu.
Il n'y a plus un seul paladin.
Voilà, donc cette société-là, elle est revenue dans les histoires, dans les mythes, dans les histoires qu'on peut raconter, mais elle n'existe plus. Le roi Arthur, il est pas là, quoi. Merlin, on ne sait pas où il est, il n'est plus là. Donc, il est peut-être en attente d'autre chose qui va peut-être se passer plus tard et qu'on ignore totalement. Et peut-être que si on se revoit dans 10-15 ans, on sera tous habillés en chevalier, parce que tout d'un coup, roi Arthur sera sorti de sa dormition, il aura pris son épée, et puis voilà, et puis il sera à la tête d'un gouvernement mondial de chevalerie, avec de nouvelles quêtes, avec des dragons qui sortiront, on sera à nouveau dans la grande épopée, quoi. Et plus dans ce monde étriqué dans lequel on s'ennuie, dans lequel on sait plus comment faire pour s'intéresser à quoi que ce soit, on sera à nouveau dans l'aventure, parce que le roi Arthur disait qu'on ne pouvait pas, pour les grandes fêtes, on ne pouvait pas manger, on ne pouvait pas participer au festin sans que on ait raconté une merveille, une aventure.
D'accord. Alors, avant qu'on se mette
donc,
tout ça
donc,
à tricoter nos cottes de mailles,
c'est pour
15 ans.
Et vivement le retour de l'aventure.
Est-ce que quand même Merlin, qui pour l'instant attend qu'on soit tous prêts, donc plus, est-ce que pour l'instant c'est pas quand même la source d'inspiration de personnages qui nous parlent tous, Gandalf, Dumbledore, est-ce que ça vous parle, cette filiation-là, Fabien?
Oui, bah ça apparaît quand même assez évident quand on lit Harry Potter, par exemple, et quand on lit Tolkien. À la différence que ça me semble même plus fort du point de vue de Dumbledore, parce qu'ils ont en commun ce côté un peu loser magnifique. Et c'est ça qui fait que...
Merci pour le spoil.
Oui, ça se termine mal, je vous préviens. Enfin, le 6 d'Harry Potter, il est déjà sorti. Hein, enfin, vous l'avez déjà vu tous, j'espère, quand même. Sinon, faut pas venir ici. Hein. Je suis désolé. Bon, enfin, toutes mes excuses à ceux qui viennent d'apprendre un truc terrible. Mais effectivement, ce sont des gens qui mettent en place une société idéale. Et à ce titre, il faut quand même savoir qu'effectivement, la société des chevaliers de la table ronde, elle est introuvable parce qu'elle n'a jamais existé. Au moment où on écrit sur la table ronde, si je ne m'abuse, c'est à partir du XIIe siècle. Et si on essaye de retrouver des exemples historiques auxquels on pourrait identifier le roi Arthur et même peut-être Merlin, il faut remonter au 6e, 7e siècle. Donc on commence à en parler 500 ans après. Et en fait, on projette une espèce d'idéal de la chevalerie sur un temps révolu. Et moi, je suis parti de cette idée-là aussi, d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est une société idéale qui n'existera pas derrière. C'est-à-dire que Merlin va mettre en place la table ronde, donc tout ce côté utopique dont je parlais, mais il va mettre en place des valeurs qui sont des valeurs de la chevalerie qui vont disparaître puisqu'il va échouer. Merlin ne peut que échouer si on en reste dans les sources. Mais ces valeurs, un peu comme vous le disiez, réapparaîtront plus tard. C'est-à-dire que moi, tel que je le traite, on va avoir des armures de plate qui vont être présentes, alors qu'elles n'existent pas du tout à l'époque, et qui seront redécouvertes plus tard. Donc Merlin, dans ce sens-là, reste un initiateur, pour reprendre l'expression de tout à l'heure.
Et pour vous, Christelle, un Merlin moderne, ce serait qui, ce serait quoi ?
Mais j'aurais peu de choses à ajouter à ce qu'a dit Fabien, ça me semblait très complet. Je dirais que c'est vrai qu'à mon avis, on parlait tout à l'heure de son côté protéiforme. C'est vrai qu'en Dumbledore, Gandalf, on a effectivement des sortes de visions de Merlin, mais ce sont toujours que des facettes. Et je pense qu'on s'est réapproprié au fur et à mesure. D'une certaine manière, bon, c'est peut-être la raison pour laquelle je suis sur cette table ronde, j'imagine. C'est dans la suite de gamme où je prépare en ce moment, il y a un personnage qui est un petit peu similaire. Mais évidemment, il ne prend qu'une partie de ce Merlin. Certaines personnes pourront le reconnaître. Ça va être la partie un petit peu paternelle, la partie initiatrice. Je laisse de côté, sans doute, tout ce qui fait de lui la personne qui est au-delà de cet univers et qui anticipe les choses, mais qui en même temps n'est pas concerné, comme on le disait tout à l'heure. Donc, ça n'est jamais que prendre une partie. Mais je crois que la force du personnage fait que de toute façon il est d'une certaine manière éternel, d'une manière ou d'une autre.
Et quand on le regarde d'un point de vue comme celui de Barjavel par exemple, qui est vraiment cette vision, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, l'enchanteur de Barjavel, j'imagine, cette vision complètement globale, cette vision de l'homme qui voit tout, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, ça reste quelque chose qui peut parler à ce que nous sommes de façon plus moderne.
Oui, c'est un thème d'ailleurs ça qu'on trouve aussi dans des contes merveilleux. C'est-à-dire, il y a des contes de Grimm dans lesquels, vous savez, il y a une espèce de grande tour et il y a une reine qui, au sommet de la tour, en fait, a des fenêtres qui lui permettent de voir le monde entier, même très très loin. Et en fait, c'est là, on peut aussi représenter Merlin au sommet d'une tour un peu semblable dans laquelle il a accès au monde entier, un peu comme le dieu Odin aussi, qui du sommet de sa salle, disons de la salle du trône du Valhalla, a une vision globale sur les neuf mondes, les mondes d'en haut, les mondes d'en bas, les mondes de la terre, les mondes souterrains, donc il voit tout. Donc c'est vrai, quand on voit tout, c'est difficile parce que chaque monde, en fait, est une espèce d'entité en tant que telle, avec ses propres règles. Et le fait d'avoir une vision globale fait en sorte qu'on ne peut pas avoir vraiment le pouvoir sur ce qu'on est. On est plus l'observateur. Merlin, c'est un peu l'observateur. Il ne peut pas vraiment prendre parti. Il peut initier des choses. Encore une fois, bon, c'est vrai que c'est lui qui est à l'initiative de la table ronde, etc. Mais il connaît tellement à l'avance toutes les conséquences de tout qu'il ne peut pas prendre parti. Ce n'est pas un homme politique. C'est pas vraiment un stratège, ça peut être un homme de guerre aussi dans certaines versions, mais c'est plus quelqu'un qui a la vision globale. Quand on a la vision globale, tout est clos. C'est un peu l'œil de Dieu, en quelque sorte.
D'accord. Alors, OK pour cette vision neutre du druide qui sait tout, mais qui se sent pas concerné. Moi, je sais pas ceux qui nous écoutent, mais moi j'ai souvent le sentiment que il y a quand même une part très négative, quelqu'un qui est capable qui est dans la manipulation, qui est capable de donner à Uther Pendragon la forme de quelqu'un d'autre pour qu'il aille avec la femme qui ne lui appartient pas, qui échange l'enfant contre cette capacité, qui malgré tout ce qu'il sait ne s'engage pas. Quelle est cette vision négative de Merlin ? Est-ce que vous en avez une vision négative ?
Moi je pense ce dont vous parlez là, en fait, ces actions a priori négatives, c'est un coup à trois bandes, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, je fais une action négative là pour un but là, mais en fait, ce que je recherche, c'est le troisième coup, en fait. Et le troisième coup, c'est a priori la paix du royaume et la réunification du royaume. Donc, s'il fait le mal, c'est en vue de faire le bien plus tard, en fait. Donc, c'est ça aussi sa toute-puissance. Et je voulais préciser une chose, en fait, Merlin, c'est quand même un druide. Donc, c'est le druide des druides, c'est le plus célèbre. Mais pour être plus simple et plus ordinaire, en fait, les druides étaient aussi omniscients et polytechniciens. C'était la fonction même du druide. Un druide, c'est juge, c'est conseiller du roi, c'est pharmacien, médecin, technicien, architecte, c'est tout ça un druide. Donc, si on prête beaucoup de pouvoir à Merlin, c'est parce qu'en fait, c'est le druide surpuissant. Mais faut pas oublier les druides en fait plus modestes, en fait, qui étaient eux-mêmes extrêmement savants et extrêmement apprécié et puis recherché. C'était rare quand même d'avoir autant de facultés. Il se trouve que là, en fait, pour mon deuxième livre, en fait, je travaille avec un druide. Et c'est fascinant en fait de rencontrer un vrai druide. Alors, évidemment, du mouvement néo-druidique, mais qui est lui-même, il est pharmacien, il est musicien, il est poète, il est écrivain maintenant, chanteur, enfin, il fait des tas de choses, et quand il a besoin de faire quelque chose chez lui, ben, il est maçon, quoi, aussi. Enfin,
c'est voilà. Un peu l'homme complet, quoi.
Exactement, mais de le rencontrer en vrai, c'est...
J'ai pas dit parfait, j'ai dit complet.
C'est assez curieux, parce qu'en fait, on a une image d'Épinal, pardon, sur le druide, mais quand on en rencontre un véritablement avec un vrai pouvoir qui vous guérit presque avec ses mains, quoi, c'est de certaines choses, c'est assez curieux. Donc, ce personnage que j'ai rencontré, avec qui j'ai travaillé pour à la recherche de Mandragore, deuxième livre, je l'ai rencontré via Merlin, en fait. Et en fait, le fait d'avoir approché le mythe, peut-être que Merlin m'a conduit vers quelque chose de plus simple, c'est-à-dire quelque chose de concret que je pouvais toucher dans mon environnement, sur ses pas, vers quelque chose d'autre. Et d'une certaine manière, j'ai à peine touché du doigt le pouvoir, en fait. Donc, le pouvoir du druide.
Si on veut l'adresse du Merlin moderne, c'est à vous qu'on s'adresse.
J'ai le numéro de téléphone.
Eh bien, pour essayer de conclure, qu'est-ce qu'il en est à vos yeux? Donc, en conclusion, qu'est-ce que c'est que Merlin? C'est un sorcier, une figure éternelle, ou bien c'est un personnage en renouveau permanent? Édouard?
Ben, comme on l'a dit un peu depuis tout à l'heure, Merlin, c'est... Moi, ce qui m'intéresse aussi dans Merlin, c'est son nom. Donc c'est parce que Merlin, c'est aussi un petit merle, donc un oiseau noir avec un bec jaune, donc un bec d'or. Donc il y a presque un aspect alchimique qui est compris dans le nom, dans l'image et dans le processus de Merlin, puisqu'on a parlé des parts obscures, mais qui pouvaient se révéler effectivement une anticipation d'un renouveau lumineux. Et Merlin, c'est aussi ce qu'utilisent dans les abattoirs les gens pour frapper les animaux, quoi. Donc c'est un espèce de gros maillet. Enfin bon, donc ne serait-ce que son nom donne cette ambiguïté du personnage, et ça renvoie un peu à ce qu'on appelle la langue des oiseaux ou la langue des anges, c'est-à-dire le fait de prendre des mots et puis trouver d'autres sens inclus dans ces mots, un peu à la façon des calembours ou des jeux de mots. Et dans Merlin, c'est un peu ça, c'est un peu le personnage qui va d'une pirouette être ailleurs que là où on l'attend. C'est un peu Loki aussi, c'est vrai, il y a cet aspect-là. Et voilà, Merlin, c'est le fait de le définir, déjà, il est ailleurs, donc... Il est au-delà de la définition qu'on en aura donnée. Donc il est dans les parts d'ombre, il est dans les parts de lumière. Il est insaisissable, en quelque sorte. Il est à la fois insaisissable et central.
D'accord. Cristal?
C'est très difficile de dire quelque chose comme ça, franchement.
Alors, une figure éternelle ou un renouveau permanent?
J'allais dire l'un et l'autre, enfin pour moi. C'est-à-dire que quand je parlais tout à l'heure de personnage éternel, oui, mais pas figé. C'est ça. Et je pense que là, on peut rejoindre ce que disait Edouard, parce que c'est ce côté insaisissable qu'il a. Et je faisais allusion tout à l'heure, c'est vrai que sur cette table ronde, j'aurais bien aimé voir Lionel Davoust aussi. J'ai lu dernièrement l'excellente nouvelle qu'il a faite sur la table ronde. J'étais bluffée, parce que voilà, ça prouve qu'aujourd'hui encore, on peut avoir du renouveau sur le thème. Et voilà, et le Merlin va, à mon avis, au gré de l'imagination des gens, continuer à se transformer. Voilà, donc éternel dans la mesure où il reste toujours une figure centrale et un petit peu une pierre de touche, quoi, une allégorie. On y revient fréquemment, enfin, par le biais de plein de types de littérature. Et je pense qu'en même temps, il a ce côté un peu protéiforme qui fait que éternel, oui, mais pas figé. Voilà. Mais...
Fabien.
Moi, j'en reste toujours à mon idée quand même d'un Merlin idéaliste, comme on l'a dit. Effectivement, c'est un pacifiste d'une certaine manière, puisqu'il veut la paix du royaume. Et ça, c'est encore une... Je vais encore répéter le même auteur, hein, mais c'est ça qu'on retrouve, c'est T.H. White, pour qui... Parce que lui, il écrit, me semble-t-il, soit dans l'entre-deux-guerres, soit au moment de la Deuxième Guerre mondiale, et il en fait vraiment une figure du pacifisme. Et on retrouve aussi le mélange quand même de Merlin qui est mi-créature divine, mi-créature démoniaque, comme c'est raconté chez Robert de Boron. C'est-à-dire donc c'est un idéaliste qui va échouer, mais qui va peut-être échouer à cause de lui-même. C'est-à-dire c'est toute l'ambiguïté de l'idéalisme qui à la fois nous permet d'avoir pris sur le monde et d'imaginer un monde meilleur, mais qui permet en même temps de construire des mondes plus terribles encore, donc et ratés, malheureusement. Voilà.
Alors, en fait, je vais faire une pirouette. Moi, j'ai envie de voir Merlin encore actuellement, en fait, dans des personnages contemporains, voilà, qui luttent contre l'inéluctable. Je le vois un petit peu dans José Bové, un petit peu. Voilà, il y a un petit peu de Merlin en fait dans lui, dans plein d'autres. Michel Serres aussi, le philosophe. Je trouve que cette
pas
sagesse.
Pas Nicolas Hulot.
Non. Non, parce que.
Je tente.
Merlin n'aurait pas fait de shampoing, quoi, par exemple. C'est pas possible. C'est pas dans. Il faut qu'il y ait quelque chose de fondamentalement gratuit en fait dans le don de soi en fait. Je cherchais, en fait, il y a un généticien, mais je ne trouve plus son nom.
Albert Jacquard,
que j'ai eu la chance de rencontrer quand j'étais petit, dans ma classe. Et là, vraiment aussi, pareil, leçon. Albert Jacquard, 2 heures devant vous, c'est vraiment une leçon de vie. Et le mythe, Merlin, ok, d'accord, on sait tous que c'est super puissant, c'est le, voilà. Mais... qu'en fait-on du mythe? Eh ben, on essaye de le faire vivre, c'est tout ce qu'on fait là. Dans 100 ans, on pourrait revenir, dans 1000 ans, on en parlera encore de Merlin, sans problème. Nous, on sera poussière, Merlin sera toujours là. On n'a pas de souci à se faire. Par contre, c'est vrai que les petites choses qu'on puisse faire pour lutter contre l'inéluctable... notamment moi à travers Merlin j'ai voulu faire un personnage écologiste. C'est évidemment j'applique à ce personnage quelque chose qui n'avait pas de sens à l'époque. L'écologie c'était naturel en fait. Or maintenant ça devient une question essentielle et pour moi Merlin je le vois à travers tous ces gens là qui se laissent pas faire et qui luttent contre les choses qui doivent arriver.
D'accord. Eh bien, voilà, parlons de la matière de Bretagne et on y est. Je crois qu'il pleut. Merci à tous. Il ne
fallait pas inviter un breton. Hein.
Voilà. Au revoir et merci de votre participation. Et
merci.
Continuez avec Berlin.